Panorama Économique.
Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres pour commencer. Véritable coup de filet, mardi à Goma, l'Office de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a démantelé un réseau de mafieux opérant avec la complicité de plusieurs services publics, dont les agents de la DGDA Goma. 70 tonnes d'emballage de la compagnie Supermatch ont été dédouanées à seulement $760 américains contre $29,000 américains que le transporteur devrait payer. Un séminaire de formation organisé mardi à Mbandaka à l'intention des enseignants de comptabilité du secondaire et ceux de l'enseignement supérieur et universitaire. L'objectif est de déceler les voies de l'introduction des notions relatives au plan comptable OADA dans le programme scolaire 2013-2014. Et puis Kibali Gold Mines qui a coulé son premier lingot d'or mardi à Doko en territoire de Ouattara en province orientale. Cette première usine pourrait produire annuellement entre 15 et 18 tonnes d'or, selon les estimations du ministre provincial des Mines. Deux invités dans Panorama économique cette semaine. Il s'agit d'abord de Blaise Kouseka. Il est doctorant en démocratie économique. Et puis nous recevrons Carlos Kalambay Kabangu. Il est directeur général adjoint de ProCredit Bank qui nous parlera en long de la formation qu'organise sa banque à l'intention des jeunes banquiers. Devant le micro, c'est Daniel Tambinzoni et François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi et à la mise en onde de Donné Nyangasa ou Nyangasa.
Panorama économique, le dossier.
Une monstrueuse fraude douanière à l'importation découverte lundi par l'Office de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. L'entreprise Supermatch est citée nommément dans cette affaire avec plusieurs complices, dont les agents de la DGDA.
Oui, Daniel, 70 tonnes de marchandises évaluées à $82,000 américains ont été dédouanées à seulement $760 au lieu de $29,000, ce qui constituerait, selon un responsable de l'OBLC, un manque à gagner important pour l'État congolais. Maître Roland Katembo Kaungia, responsable de l'OBLC, donne plus d'explications au micro de Jungala.
Il s'agit de deux véhicules qui sont venus de l'Ouganda. Les véhicules transportaient 70 tonnes d'emballages vides avec la marque Supermatch. Elle est évaluée à $82,000. Et selon les tarifs douaniers, on devait payer 32% de la valeur FOB, donc $29,651 comme droit et taxe de la DGDA seulement. Donc, hormis les autres frais qu'on appelle connexes, l'importateur a payé par véhicule, selon la déclaration simplifiée à l'importation devant nous ici, là, il a payé par véhicule 353 916 francs congolais, ce qui équivaut à $385. Et que donc, pour les deux véhicules, il a payé $769 au lieu de $29,651, ce qui est une fraude flagrante. Et nous avons placé les éléments de la police pour que l'enquête puisse maintenant commencer en bonne et due forme.
Nous revenons dans le studio de Panorama Économique avec notre invité Blaise Kouseka. Il est doctorant en démocratie économique. Blaise, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Ok, voilà. Vous avez suivi ce premier dossier. Au lieu de plus de 29 000 dollars américains qui devraient être perçus par le Trésor public, par la DGDA, c'est plutôt $760 seulement. Et c'est un coup de chapeau à cette organisation qui a mis la main sur cette bande de fraudeurs alors que le gouvernement a vraiment besoin de l'argent.
Coup de chapeau pour l'organisation, c'est vraiment une grande félicitation pour eux. Mais ça prouve que jusque-là, nous sommes encore dans un système un peu d'amateurisme en ce qui concerne la gestion ou bien les structures financières. L'efficacité de l'État en matière financière repose sur deux axes. D'un côté, nous avons les technologies sur la production, mais de l'autre côté, nous avons les offices de l'État. Là, il n'y a pas de grands efforts à faire. Toute l'intelligence repose sur les mécanismes de transparence dans la gestion de toutes ces entreprises. Alors, c'est pour nous une occasion de comprendre que jusque-là, les structures, les mécanismes ne sont pas encore sécurisants, ne sont pas encore favorables. Il faudra travailler pour perfectionner ces domaines en vue d'aider l'État à maximiser ses recettes.
Justement, vous dites qu'il faut perfectionner le système. La DGDA a déjà lancé plusieurs programmes informatiques pour lutter justement contre la fraude, mais on se rend compte que davantage, il y a des cas qui sortent à gauche, à droite. Est-ce que on se pose la question, est-ce que c'est le problème de machine ou encore c'est d'abord le problème d'homme?
Il y a un problème.
Il faut jouer sur les deux axes alors.
Il y a un problème aussi stratégique au niveau de la loi. Quand par exemple les gens sont récupérés dans de tels cas, il faudra des mesures punitives sévères. Et ça va aider les autres à pouvoir prendre des distances. Mais quand l'impunité règne, des cas comme ça, c'est quand même aussi en même temps regrettable pour l'État de trouver des flagrances de ce genre. Ça crache sur notre identité. Il faudra des mesures punitives efficaces et renforcer davantage ces paramètres de sécurité.
Et il faut dire que la hiérarchie de la douane qui est mise en cause directement dans cette histoire n'a pas encore donné de la voix. Elle dit attendre les résultats de l'enquête en cours initiée par la brigade douanière spécialisée dans ce genre d'opération. On passe à notre deuxième dossier de la semaine. Et comme vous le savez, bientôt la comptabilité des affaires en RDC devra se faire suivant le système de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droit des affaires OADA.
Pour l'année scolaire 2013-2014, les enseignants de comptabilité de secondaire et ceux de l'enseignement supérieur universitaire sont tenus d'introduire les notions relatives au plan comptable OADA. Un séminaire de formation se tient donc à ce sujet depuis jeudi en Bandaka, en Équateur. Un reportage signé Régine Boukoumazango.
Cette formation s'adresse à 50 utilisateurs du système comptable OADA. Il s'agit des enseignants des cours de comptabilité de l'EPSP et ceux de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que des organisations professionnelles, membres de l'Office des petites et moyennes entreprises du Congo OPEC. Séraphin Kalumbu, membre du comité de pilotage du système comptable OADA, indique que ces enseignements entrent dans le cadre de la vulgarisation du système OADA en RDC. Ainsi, les cours de comptabilité au niveau secondaire et universitaires doivent introduire des changements intervenus dès l'année scolaire et académique 2013-2014. Mais les enseignants estiment qu'il est difficile d'introduire des notions OADA dans les programmes scolaires en l'absence de manuels d'enseignement. Suivez un enseignant.
Chose est grave puisque nous sommes des professeurs de formation. À l'établissement dont nous dispensons cours, il n'y a pas de manuel. C'est ça la raison pour laquelle, qu'est-ce que nous allons dispenser comme formation? À partir de ce que nous avons reçu ici, ou bien l'État est obligé plutôt de préparer déjà d'autres manuels.
Notons que le plan comptable OADA s'est fait selon les standards internationaux. Mbandaka, Régine Boukoumazango, Radio Okapi.
Et tout de suite la réaction de notre invité, introduire le plan comptable OADA dans l'enseignement congolais pour l'année 2013-2014 et pour la suite.
Oui, c'est une bonne chose. Surtout, il y a des enfants après les secondaires, ils n'ont pas la capacité ou bien les moyens de faire l'université. Alors, s'ils doivent avoir déjà une idée à partir du secondaire de la planification de leur plan comptable, disons 10 après les secondaires, on pourra quand même être à mesure de faire un rapport financier annuel. Mm-hmm. Et puis, ça sera aussi
Et là, les professeurs se plaignent encore des matériels didactiques qui ne sont pas encore au point, qui ne sont pas encore au rendez-vous.
Bon, là, il faudra un peu s'en prendre aux responsables politiques. Ils ne doivent pas découvrir la nécessité d'un programme et puis ne pas penser à des instruments. Donc, il faudra davantage mettre en circulation des ouvrages qui pourront permettre aux enseignants de pouvoir mettre en pratique un peu, ou bien de travailler déjà sur la dispensation de ces programmes.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Et nous allons prendre rapidement les autres informations de la semaine. En bref, les agents et cadres de la Direction générale de douane et accises de Mahagui ont menacé mardi d'aller en grève. Plus d'une centaine d'agents et cadres de la douane en poste à Mahagui, territoire frontalier avec l'Ouganda, sont concernés par cette situation. Ils réclament 5 mois d'arriéré de salaire auprès du gouvernement central. Leur délégué syndical a déclaré à Radio Capi que cette situation démotive les agents. La direction provinciale de la DGDA indique que ce désagrément vient de la fonction publique et non de sa hiérarchie générale.
Et puis lancement jeudi en Boujumaï d'un projet d'aide aux femmes gérantes des petites et micro-entreprises. Cela rentre dans le cadre du programme de création d'emplois et des revenus, PROCER en sigle, un projet du gouvernement central. D'après le chef de département technique au PROCER, dans un premier temps, ce projet concerne une centaine de femmes regroupées en 10 associations des femmes exerçant le petit commerce à domicile avec capital de moins de 10 dollars. Chaque femme a reçu une somme de 50 dollars à restituer dans un délai de 6 mois. Ces fonds permettent aux bénéficiaires de relancer leurs activités génératrices de revenus.
Et nous nous rendons à Tikapa, c'est le courant électrique prépayé qui coûte très cher et cela n'enchante pas les chefs coutumiers des groupements environnants Tikapa. Ils exigent la réduction du coût élevé de la facturation du courant électrique prépayé dans cette ville. Ils l'ont exprimé mercredi dans un mémorandum remis au maire de la ville de Tikapa. Dans le mémo, il demande que la facturation de 10 kWh passe de 5 dollars le jour à 1 dollar. Et leur porte-parole, Faustin Kumbi, invite l'entreprise Électricité du Congo, EDC, non seulement à revoir à 1 dollar la facturation de l'électricité, mais aussi il sollicite une augmentation de kilowatts journaliers.
D'un bout à l'autre, le centre des impôts synthétiques d'Idiofa dans le Banoudou éprouve de difficultés à percevoir les impôts auprès des éleveurs et exploitants forestiers dans la partie nord de ce territoire. Selon le chef de ce centre, les 40% des assignations ne sont plus atteintes et c'est là 4 ans durant. Jean-René Nganga accuse le service de l'ICCN de percevoir ses taxes auprès des assujettis. Il craint la désobéissance fiscale de cette catégorie locale, donc localisée à Mangai, Dibayaloubwe, Panou Cité et Piopio, dont les bêtes sont hébergées dans les plages de la rivière Kasai située à plus de 120 km du chef-lieu de ce territoire. La baisse des recettes, selon lui, est importante.
Les autorités du district de la Tchopo s'insurgent contre l'exploitation clandestine du coltan, récemment découvert dans le territoire de Bafoua-Sendé et autres richesses par le groupe armé Mai Mai à Opiengé. C'est l'information rendue publique mardi à Yangambi à l'occasion de la présentation de la carte postale de la Tchopo aux participants du forum économique de ce district. Le commissaire du district de la Tchopo a condamné l'insécurité et l'activisme des Mai Mai dans ce coin de la province, activisme lié à la présence des ressources minières dans cette partie de la province.
Au Maniema, plus de 500 enseignants de Kalima réclament le paiement de leur salaire de plus de 4 ans. Réclamation formulée mercredi par le syndicat des enseignants du Congo à l'issue de leur assemblée générale. Il s'agit des enseignants mécanisés mais non budgétisés. Ce dernier donc enseigne dans des écoles primaires et secondaires de différents réseaux d'enseignement. Terminons cette série par le Katanga où le gouvernement provincial a mis une enveloppe $1 million pour la construction et la réhabilitation des écoles dans le territoire de Sandoua. Annonce faite jeudi par le gouverneur de province en visite dans le coin. Moïse Katumbi a également remis 10 millions de francs congolais pour la prise en charge des interventions chirurgicales de patients et 30 millions de francs congolais pour la prime des enseignants pour deux mois.
Merci François et nous allons retrouver Blaise Kouseka, doctorant en démocratie économique et analyse de l'actualité économique avec nous aujourd'hui. Blaise, parmi les infos livrées dans cette série, l'une ou l'autre a retenu votre attention.
Oui, c'est la grève des enseignants, la grève de partout. Mais dans tout ça, on regrette seulement que ce sont seulement les agents de l'État souvent qui sont en grève. On n'a jamais appris que les ministres sont en grève, on n'a jamais appris que les mandataires des entreprises publiques sont en grève, c'est seulement la minorité. Donc l'économie du pays doit sortir d'un cadre restreint des dirigeants, doit s'ouvrir à toutes les couches de la société. On ne peut pas comprendre que des parents qui ont des enfants à scolariser, ces enfants-là, c'est le futur de notre pays, c'est le futur cadre de notre pays, qui puissent grandir dans des conditions médiocres, et ça joue sur leur cohérence morale, sur leur cohérence intellectuelle et sur d'autres paramètres. Donc on renvoie en enfer des êtres humains à cause, je ne sais moi, peut-être d'une mauvaise foi. Il faudra vraiment que le gouvernement ait un plan salarial qui
plus compte, large que celui appliqué maintenant.
Et objectif, oui, par rapport à la conjoncture actuelle.
Matière première.
Le premier lingot d'or a coulé mardi dans l'usine de la société Kibal Gold Mines, une joint venture entre la Sokimo et la sud-africaine Anglo-Gold Ashanti à Doko, dans le territoire de Ouattara en province orientale, François.
La cérémonie a bénéficié de la présence du ministre national de Mines, Martin Kaboulou, et du vice-gouverneur de la province orientale, Pascal Mombi. Le ministre provincial de Mines rapporte que cette première usine à ciel ouvert produira, dans un premier temps, 15 à 18 tonnes d'or par an. On l'écoute donc au téléphone de José Deschartes Menga depuis Doko.
La rétrocession de la redevance minière est de 1% pour tous les services de l'État. Et dans le 1%, la province est appelée à obtenir un taux de 40% et le reste, c'est à répartir au niveau national. Les différentes sociétés qui seront créées à la suite de la production qui vient de commencer, et toutes ces sociétés-là auront certainement à payer des taxes, des impôts et des droits à la province. Et la société Kibali Gold ne va pas seulement se limiter à la production de l'or. Elle a pris contact avec les différentes sociétés réparties à travers le monde. Il y a celles qui viendront vers au début de l'année prochaine pour investir dans l'agriculture, qui vont mettre sur place une de production de savon et de l'huile végétale et des plantations sur place. Tout ça, ce sont des activités liées à l'exploitation minière à Doko.
Voilà, nous allons retrouver notre invité. Monsieur Blaise, la RDC a rompu avec la production industrielle de l'or depuis un certain temps. Et voilà que Kibal Gold ressuscite cette production industrielle. C'est quand même une bonne chose à côté de la production artisanale qui n'apporte pas grand-chose au trésor public.
Oui, c'est une bonne chose. Là, j'espère que le gouvernement a bien négocié les partenariats. Mais ce qui attire mon attention un peu, c'est toutes les statistiques sur la production, mais on ne dit pas... c'est comme si, dans notre pays, on cherche l'argent pour l'argent, mais on ne comprend pas que l'argent a pour destination l'homme. C'est-à-dire, quand une entreprise fonctionne, on doit savoir quelle sera la capacité de sa création d'emploi. Il aura combien d'argent? Est-ce que ces chiffres-là sont vraiment rationnels, ou bien il est en train de faire des économies, ou bien il va faire fonctionner les gens avec des maigres salaires? À Lubumbashi, on en a l'expérience, c'est la Gécamine a travaillé et pour l'économie et pour l'humain. Alors tous ces paramètres-là doivent être pris en compte. On doit par là trouver aussi directement la survie, la prise en charge d'une grande partie de la population. Ce n'est pas bon qu'on cherche seulement de l'argent pour l'argent, et cet argent-là finalement va à des destinations qui ne servent pas à ceux pour qui ces structures sont mises en place.
Et nous allons prendre le dernier tournant de panorama économique. Comme je vous le disais, je vous annonçais tantôt deux invités dans ce magazine. Le deuxième invité nous vient de la ProCredit Bank, qui appelle les jeunes diplômés qui sortent des universités et même des professionnels qui aimeraient faire carrière dans le secteur bancaire à s'inscrire à son programme Jeunes Banquiers. C'est un programme lancé depuis 2 ans qui recrute et forme pendant 6 mois des professionnels de banque. Pas de frais à payer pour obtenir son inscription. Le CV et la lettre de motivation du candidat sont quelques éléments déterminants dans le processus de recrutement. Pour en parler, le directeur général adjoint de la ProCredit Bank, Carlos Kalambay Kabangu, est avec nous. Monsieur Carlos, bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel.
Vous êtes directeur général adjoint à ProCredit Bank. Votre banque venait de lancer il y a 2 ans un programme qui vise à former les jeunes banquiers. Pouvez-vous nous parler en bref de ce programme et qu'est-ce que vous attendez de ce programme?
J'aimerais commencer par donner un bref aperçu de ce qu'est la ProCredit Bank Congo, qui est une banque du groupe ProCredit, basée principalement en Allemagne et ayant 24 banques à travers le monde, en Amérique latine, en Europe de l'Est et en Afrique, et qui a pour mission principale d'offrir les services financiers aux très petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux particuliers. Alors la ProCredit met une action importante sur le personnel. L'attention particulière qui y est accordée fait en sorte que l'institution investit beaucoup dans la formation. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de mettre en place un programme de formation pour les jeunes qui sortent de l'université ou pour des personnes qui ont eu à travailler mais qui veulent se lancer dans une carrière bancaire.
La formation peut prendre combien de temps?
La formation dure 6 mois.
Et au terme, tous les formés qui sont retenus par ProCredit Bank ou la banque va procéder à une sélection?
Je dirais, durant les 6 mois, il y a déjà une sélection. C'est pas tous ceux qui commencent les 6 mois de formation qui vont terminer la formation, mais il y a déjà une présélection qui est faite durant la formation et ceux qui terminent et qui répondent aux profils, exigences et attentes de l'institution, ils se verront offrir un contrat de travail.
C'est depuis 2 ans que le programme est en cours.
Oui.
Pouvez-vous nous donner le bilan? À combien de personnes ProCredit a donné du boulot?
À ce jour, nous avons recruté 74 personnes.
Qui travaillent chez ProCredit.
Qui travaillent chez ProCredit. Et ces 74 personnes viennent principalement de 6 programmes organisés. Depuis l'année passée, nous commençons des programmes avec en moyenne 30 personnes et terminons avec une moyenne de près de 15 à 20 personnes. Et je dirais, nous avons au total jusqu'à ce jour reçu près de 10 000 candidatures et nous avons environ 230 personnes qui ont commencé le programme. 74, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont terminé le programme et présentement nous avons 59 personnes dont 3 programmes qui sont en cours et 2 programmes termineront au courant du mois d'octobre.
Quelle importance vous accordez à la communication justement liée à cette formation que vous organisez? Pourquoi vous voulez en parler?
Je veux en parler, c'est pour sensibiliser la jeunesse congolaise et aussi certains professionnels, leur dire qu'il y a des opportunités qui leur sont offertes, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Aujourd'hui, les jeunes, après l'université, se voient confrontés à certains critères qui vont au-delà de leurs capacités et au-delà de leurs attentes. On leur exige 3 ans, 5 ans d'expérience professionnelle, alors qu'ils viennent à peine de terminer l'université et déjà ils ont du mal à faire un stage professionnel proprement dit. Alors, si je veux intervenir et passer ce message, c'est pour leur dire que nous leur offrons cette opportunité, après l'université, de s'enregistrer, de participer au processus de sélection et d'être sélectionné pour cette formation. Le processus est très transparent et donne la chance aux personnes compétentes de pouvoir s'inscrire, terminer et pourquoi pas demain être employé de ProCredit Bank Congo.
Monsieur Carlos, peut-être que je peux me tromper, peut-être que je suis mal informé. Ça fait 2 ans que ProCredit organise cette formation, mais on a comme impression que c'est organisé seulement à Kinshasa. Ceux qui sont dans le milieu où ProCredit n'est pas présente, qu'est-ce qu'ils feraient pour bénéficier de cette formation, eux aussi?
Dans les groupes déjà formés, nous en avons ceux qui viennent du Bas-Congo et du Katanga, mais n'empêche qu'il y a des candidats qui acceptent de se déplacer des provinces où ils sont jusqu'à Kinshasa et ils sont pris à charge pendant les 6 mois par l'institution. Peut-être je pourrais aussi parler...
Et c'est ainsi que je viens à vous demander que faire alors pour être sélectionné, prendre part à cette formation. Voilà.
Si vous le permettez, avant de répondre à votre dernière question, je puis expliquer peut-être en quoi consistent les 6 mois de programme.
Rapidement.
Nous avons 3 mois de pratique et 3 mois de formation théorique. Nous avons des thèmes généraux comme la mathématique générale, la mathématique financière, la comptabilité. Mais nous avons aussi des cours liés au secteur bancaire, économie et développement. Et nous avons des cours à caractère non seulement économique, mais aussi général et spécifique, comme l'environnement, la crise financière, parce qu'on estime que les jeunes qui veulent se lancer dans le secteur bancaire doivent être conscients de l'implication des tâches d'une institution bancaire dans un système économique. Et puis, ils ont 3 mois de pratique où ils sont dans nos agences, dans nos différents départements, avec nos cadres et experts qui les suivent durant les 3 mois. Ça fait un mélange où ils ont d'une part la théorie et d'autre part, ils palpent les réalités professionnelles.
Voilà, merci Monsieur Carlos Kalambay. Nous retrouvons notre invité Blaise Kouseka pour un petit commentaire par rapport à cette formation qu'organise la banque.
Oui, l'initiative est bonne, mais il y a certains paramètres de confiance qu'il faut un peu soulever.
Comme
la durée semble d'abord un peu très longue. C'est-à-dire quand dans la vie professionnelle, vous découvrez qu'il y a des insuffisances par rapport à ceux qui finissent l'université. 6 ans de formation universitaire, c'est vraiment trop pour être un agent dans une banque. Mais quand vous découvrez les insuffisances, c'est au niveau du programme gouvernemental en ce qui concerne l'enseignement que vous devez vous plaindre. On verra comment ajuster certains paramètres liés à l'enseignement. Alors si par exemple vous voulez en même temps vous faire institution, je ne sais moi, bancaire et en même temps académique, et c'est un peu une usure. Et ce qui est aussi à soulever, c'est le temps qui est perdu. Est-ce que ces temps-là, les étudiants sont payés?
Vous passez, il y a eu dans la suite de l'interview, il dit même ceux qui viendront de l'intérieur, oui, ils seront pris en charge par la ProCredit Bank et pendant la formation, il y a un petit rien qui est remis aux étudiants.
Il y a moyen de bien qualifier le fait. Est-ce qu'en même temps, ils ont créé une structure, une entreprise de sous-traitance ou bien... c'est comment il faut bien qualifier la structure, mais l'idée en soi est bonne, mais le temps qui est un peu trop exagéré. Avec 5 ans, c'est déjà trop. On doit passer même par un stage d'ajustement de 2 mois ou bien 2 mois, comme c'est partout. Comme ça, on donne quand même valeur aussi à toutes les formations et universitaires et à tous ces parcours-là. Donc,
voilà, Monsieur Blaise, nous vous avons présenté ici comme doctorant en démocratie économique et c'est par là que nous allons terminer. Oui. Dites-nous en 2-3 mots, c'est quoi la démocratie économique et nous allons terminer le panorama économique d'aujourd'hui.
La démocratie économique, c'est une démarche qui vise aujourd'hui la révision de partenariats entre les États et les systèmes financiers, entre les États et les systèmes bancaires, entre les États ainsi que leur population. Il faut qu'il y ait vraiment un bon dialogue entre l'économie et la population. Et pour que l'argent circule des institutions, des banques, des États vers la population, il faut une étude assez beaucoup plus souple, beaucoup plus efficace, qui explique un peu les paramètres de conjugaison, car la pauvreté est toujours là, alors que certains États se disent un peu économiquement forts, et sur le terrain, on voit que l'homme est toujours en train de souffrir. Et c'est aussi une intelligence qui peut aider les États plus pauvres à bien conjuguer avec les systèmes financiers et à réaliser aussi que l'homme reste toujours la finalité. L'homme doit passer une expérience un peu merveilleuse sur Terre afin d'espérer aussi une vie paisible au ciel. C'est pas bon que l'être humain passe des moments très misérables, très souffrants, qui essaie un peu de dénaturer sa nature profonde et qui essaie aussi de lui faire passer à côté les objectifs de son parcours sur la Terre.
Donc cette discipline est aussi présente en RDC?
Oui, ici c'est moi qui suis le représentant. C'est une institution canadienne qui s'est spécialisée depuis très longtemps dans la matière. Et nous sommes là pour des formations, pour des conférences. Et il y a aussi des enseignants du Canada et de partout qui arrivent. On organise des séminaires dans
des séances que vous animez déjà.
Oui, que nous animons.
Vous en avez déjà animé combien?
Oh, on ne saurait pas compter. C'est depuis 2008.
Et ça trouve de l'intérêt auprès des étudiants aussi?
Vraiment des intérêts. Il y a déjà des sujets, des fins, des cycles que nous dirigeons ou bien que nous co-dirigeons dans la matière. Et ça réforme même les économistes, puisque nous travaillons de l'économie, nous traitons de l'économie fondamentale. Donc même des professeurs en économie retrouvent les paramètres les plus authentiques, les plus fondamentaux d'une bonne économie et trouvent aussi une intelligence qui essaie de bien tracer les paramètres sur la circularité de l'argent entre population et gouvernement, entre gouvernement et les systèmes financiers ainsi que monétaires internationaux.
Blaise Kouseka, doctorant en démocratie économique, merci surtout d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons vous avoir dans ce même studio dans les jours qui viennent. Ainsi se termine le panorama économique de cette semaine, chers auditeurs de Radio Okapi. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radiookapi.net et nous vous annonçons aussi que votre journal économique Écho d'économie de lundi à vendredi, vous pouvez désormais le retrouver sur notre site www.radiookapi.net. François, c'en est fini pour Panorama économique.
Oui, fini pour ce samedi.
Rendez-vous à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Et moi, j'en profite pour te souhaiter bonnes vacances.
Et déjà, je vais en congé. Je sais qu'on sera ensemble le week-end prochain.
Et merci voilà. Beaucoup. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Merci.